Bienvenue dans notre émission Le droit dans ses bottes, le podcast du droit appliqué au BTP, proposé par le cabinet d'avocats Adaltis et le moniteur des travaux publics et du bâtiment. Pour cette deuxième saison, nous partons dans les pas d'un avocat ou d'une avocate, explorer les terrains juridiques qu'arpenteront les acteurs de la construction dans les prochains mois. Du décret tertiaire à l'urbanisme transitoire, en passant par l'artificialisation des sols, le verdissement de la commande publique ou encore la protection des lanceurs d'alerte, il nous livre les clés pour mieux comprendre les enjeux, adopter les bonnes pratiques et anticiper les échéances. Une série d'interviews au micro de Sophie Dozon.
Je suis Sophie Dozon, rédactrice en chef adjointe du Moniteur et aujourd'hui notre chef de chantier juridique est Xavier Aimance. Xavier est avocat associé spécialisé en droit public. Et nous allons ensemble nous projeter vers 2026, vers une commande publique plus verte et plus rose. Bonjour Xavier.
Bonjour Sophie.
Alors plus verte pour le côté environnemental, plus rose pour le côté social, la commande publique doit devenir durable. C'est ce qu'exige notamment la loi Climat et Résilience. Mais plus que tout, le développement durable est aujourd'hui devenu un principe fondamental qui irrigue tout le droit des marchés publics. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Xavier ?
Alors, il existait jusqu'à présent trois principes fondamentaux. L'égalité de traitement entre les candidats, la liberté d'accès et la transparence des procédures. Et effectivement, un nouveau principe a été ajouté par cette loi Climat et Résilience. La commande publique doit participer à l'atteinte des objectifs de développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale. Alors, deux points importants. Premier point, c'est l'idée, la volonté de faire de la commande publique un instrument de mise en œuvre de cette politique de développement durable. On compte en fait sur un effet d'entraînement de la commande publique qui représente 100 milliards d'euros en France par année. Cela représente 8% du PIB. Deuxième point, c'est effectivement les effets pratiques. Concrètement, ce principe, comme tous les principes fondamentaux de la commande publique, s'applique à tous les acheteurs publics, tous, quelle que soit leur nature, le montant du marché, la procédure utilisée. Et en plus de cela, ça s'applique également à chaque étape de la procédure. Et même, on verra par la suite, dans l'exécution du marché.
Le droit dans ses bottes, par le Moniteur et Adaltis.
Les pouvoirs publics ont aussi fixé une obligation particulière aux plus gros acheteurs. Ils doivent structurer leur démarche avec un SPASER, le schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. Mais on constate que fin 2022, seul un tiers environ des entités publiques qui sont assujetties avaient rempli cette obligation. On en est où aujourd'hui ?
Ah oui, les fameux SPASER. Alors, c'est un document qui détermine les objectifs dans la passation de marché public. En matière de social, avec l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, et également écologique, promotion d'une économie circulaire. Les nouveaux apports de la loi, c'est qu'il faut dorénavant des indicateurs précis qui sont exprimés en nombre de contrats ou en valeur ou sur les taux réels d'achat et avec un système de suivi annuel pour voir si effectivement les objectifs sont remplis. Qui est concerné ? Les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales, ainsi que les acheteurs qui disposent d'un statut de nature législative. Et là, on a un seuil qui a été descendu. Avant, il s'agissait d'acheteurs dont le montant des achats annuels représentait 100 millions d'euros. Dorénavant, on est passé à 50 millions d'euros. Donc, mécaniquement, cela va concerner bien plus d'acheteurs publics qu'auparavant. Ce que l'on remarque au fil du temps, c'est que la nouvelle génération de SPASER comporte des axes thématiques qui sont en lien avec les orientations propres à la collectivité. On a une sorte de phénomène, comment dire, d'appropriation des SPASER.
Vous avez un ou deux exemples à nous donner ?
Quelques exemples d'axes stratégiques. Eh bien, on a par exemple l'alimentation durable, le bio, circuit court, la biodiversité, l'économie circulaire, l'égalité, femmes, hommes, le numérique responsable, la protection de la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail et la structuration des filières.
Finalement, à quel point une entité aujourd'hui doit phosphorer pour avoir un schéma très personnalisé ? Est-ce qu'on ne peut pas se contenter d'un schéma un peu standard puisque tout le monde a les mêmes objectifs ?
À travers votre question, moi, ce qui me semble intéressant, c'est cette modalité d'élaboration des SPASER. Là aussi, on voit une évolution de la part de ces acheteurs qui sont concernés. Et on voit de plus en plus de modalités qui reposent sur la consultation du public ou tout du moins des services. Par exemple, Toulouse, ou la métropole de Toulouse, qui a eu toute une démarche de concertation qui était inédite avec les acteurs de la commande publique en interne. le partage des objectifs avec les organisations professionnelles. Ils sont allés voir les organisations professionnelles, secteur du bâtiment, des travaux publics, secteur de l'économie sociale et solidaire. Et c'est au terme de ce dialogue qu'ils ont élaboré leur nouveau document.
On quitte le champ des SPASER, on repart sur toute la collectivité des acheteurs publics. Un acheteur public doit définir ses besoins en recourant si nécessaire au sourcing avant de lancer un marché. Et comment on prend en compte la dimension durable à ce stade ?
Alors, c'est une obligation légale. Dans la définition des besoins, l'acheteur doit prendre en compte des objectifs de développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale. Mais c'est une obligation qui reste quand même de moyens. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Et là, on voit bien le rôle du SPASER, parce que ça va permettre d'aider la collectivité à faire ce travail en amont de lancement de ses marchés, de définition de ses besoins et d'intégration de ses objectifs de développement durable dans la définition des besoins. Cela implique que pour chacun de ces achats, le pouvoir adjudicateur doit s'interroger sur la possibilité d'intégrer dans le marché des spécifications techniques, cahiers des charges, conditions d'exécution, ou alors dans la procédure de passation, avec la sélection des candidats, les critères de sélection des offres, et bien des exigences en termes notamment de développement durable. Encore faut-il néanmoins qu'un nombre suffisant d'entreprises soit en mesure de répondre à ces spécifications particulières. Et là réside tout l'intérêt du sourcing. Parce que c'est justement au travers de ce sourcing que la collectivité va pouvoir confronter ses objectifs, ses exigences, la réalité du marché. Est-ce que les entreprises sont véritablement en capacité de répondre à ces exigences de développement durable ?
Alors, une fois qu'on a défini ses besoins, on rédige son dossier de consultation des entreprises, le DCE. Et là se pose l'épineuse question des variantes. Est-ce que c'est un avantage ou plutôt un inconvénient dans la démarche de l'acheteur public de rendre sa commande plus durable ?
Donc, la variante, elle se révèle en fait être un outil efficace de promotion du développement durable dans les achats publics. Et elle peut avoir un intérêt tout particulier dans deux hypothèses. Première hypothèse, l'acheteur public n'est pas en mesure de rédiger lui-même les exigences techniques associées aux considérations environnementales ou sociales qu'il souhaite voir chiffrées et détaillées. Deuxième hypothèse, c'est lorsque l'acheteur public est en capacité de rédiger une clause sociale, une clause environnementale, mais elle souhaite néanmoins permettre aux soumissionnaires de proposer des solutions qui sont plus performantes ou innovantes.
Et par exemple, en marché de travaux, comment ça peut se traduire ?
Un exemple, dans le cadre d'un marché de travaux de terrassement, l'acheteur public va pouvoir autoriser une proposition de variante intégrant, par exemple, un meilleur traitement des déblais qui sont produits dans le cadre de ce travaux de terrassement, ainsi que leur réutilisation, ou incitant à l'utilisation de matériaux qui sont moins impactants pour l'environnement.
La mesure phare pour 2026, c'est l'obligation d'avoir au moins un critère environnemental parmi les critères d'attribution des marchés. Et ce n'est pas une mince affaire pour les acheteurs publics parce qu'ils doivent bâtir de tels critères dans tous les domaines d'achat et préserver l'accès des entreprises au marché, ne pas laisser trop d'entreprises sur le carreau. Comment s'y prendre ?
Alors, effectivement, suppression du critère unique. C'est une sacrée révolution et donc qui interdit le recours au critère unique du prix. Seul le critère unique du coût global intégrant nécessairement des considérations environnementales pourra désormais être retenu. Donc, obligation d'intégrer des critères liés au développement durable, critères qui doivent être liés à l'objet du marché, qui peuvent avoir trait, par exemple, au processus spécifique de production, de fourniture ou les performances en matière de protection de l'environnement. Du côté de l'entreprise, être confronté à des critères d'attribution environnementaux plutôt que des spécifications technique, c'est une situation qui est un petit peu plus facile dans la mesure où les spécifications techniques sont impératives alors que les critères environnementaux vont être là pour classer les offres. Deuxièmement, l'entreprise face à un marché public qui va se voir être confrontée donc à des critères environnementaux, va devoir l'analyser. Et dans le cadre de cette analyse, pour pouvoir définir la meilleure réponse qu'il pourra proposer pour remporter le marché. À ce stade-là, un conseil, ne pas hésiter à poser des questions avant l'échéance indiquée dans le règlement de consultation, bien entendu. On le voit trop dans les dossiers, très souvent, il y a une incompréhension, on ne connaît pas trop l'attente. Après qu'il ait posé ces questions, la difficulté dans laquelle il va se trouver, c'est de définir sa stratégie de réponse. Soit il va vouloir gagner des points sur le critère environnemental et donc il proposera des solutions qui seront très gagnantes d'un point de vue environnemental, mais en contrepartie, probablement, eh bien, il perdra des points sur le critère du prix, parce que ces solutions ont généralement un coût. Ou inversement, il préférera proposer des solutions environnementales moindres et un coût un petit peu moindre également. Donc, le choix se fera au cas par cas, en fonction des critères, de la façon dont ils sont définis, bien entendu, la capacité de réponse de l'entreprise et de la pondération des critères d'attribution. Donc là, il y aura une petite stratégie à avoir de la part de l'entreprise.
Est-ce que le législateur a prévu des petites issues de secours? Est-ce que dans certains cas, on peut faire exception?
Alors, effectivement, il existe des exceptions aux nouvelles obligations qui ont été introduites. Ces exceptions concernent l'obligation de prendre en compte des considérations relatives au domaine social ou à l'emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées. On ne va pas tous les énoncer, mais par exemple pour les marchés formalisés, dans quatre hypothèses, on peut déroger à cette obligation. C'est premièrement le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible, ou alors une telle prise en compte n'est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l'objet du marché. Une telle prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement et économiquement difficile l'exécution de la prestation. Ou alors, lorsqu'il s'agit d'un marché de travaux d'une durée inférieure à 6 mois. Mais dans tous les cas, ces dérogations doivent être justifiées par l'acheteur public dans le cadre de son processus de sélection des candidats dans le rapport de présentation.
Le droit dans ses bottes par le Moniteur et Adaltis.
Alors Xavier, pour conclure cet épisode, je vais vous proposer de regarder dans une boule de cristal. Est-ce qu'on peut penser que après 2026, la commande publique sera pleinement durable, ou est-ce que malgré tout, des freins vont persister?
Alors en tout cas, effectivement, l'objectif, c'est qu'elle soit de plus en plus durable et même pleinement durable d'un point de vue environnemental, puisque nous avons le plan national d'action pour l'achat public durable, PNAD 2022-2025, qui nous dit que d'ici 2025, 30% des marchés publics doivent avoir une considération sociale, mais 100% des marchés publics devront avoir une considération environnementale. Alors effectivement, il y a des freins. Premièrement, c'est le coût. Ces mesures de développement durable ont un coût. Et dans un contexte financier contraint, difficile, c'est un obstacle qui est de taille. Et dans un contexte financier contraint, eh bien, l'achat public, c'est un levier aussi pour faire des économies. Deuxième frein, c'est l'infructuosité, d'où l'intérêt, dont on a parlé tout à l'heure, du sourcing, du dialogue, en amont de la passation des marchés, pour vérifier que les entreprises seront bien en capacité de répondre à ces prescriptions environnementales. Troisième frein, c'est qu'il y a aussi une nécessité d'appropriation. Il faut changer les habitudes. Et souvent, dans un contexte qui est marqué par l'urgence, les acheteurs publics n'ont pas forcément le temps à consacrer, à revoir tous leurs process, tous leurs documents de consultation, à revoir leurs documents contractuels pour intégrer ces notions de développement durable. Mais c'est pourquoi il faut anticiper, c'est pourquoi il y a des outils, notamment l'outil dont on a parlé, qui sont les spaceurs, qui se permettent de bien anticiper ces problématiques et donc de lever ce type de frein.
Et ce sera le mot de la fin. Merci Xavier. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast Le droit dans ses bottes sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager cet épisode avec votre réseau. À bientôt.